Vous écoutez Ainsi soit-elle.
Quand j'étais une petite fille, on m'avait bien apprise à faire ce qu'on me dit, rien savoir de l'anarchie, savoir rien de politique. Des hommes déshabillés, de drogue commandée, d'amour et de tuer.
Alors, bienvenue sur les ondes de Sekaya FM 88,3. Vous écoutez Ainsi soit-elle, une émission féministe et libertaire. Alors aujourd'hui, on a Evelyne, Hélène et Hélène en studio et on va s'entretenir avec une squatteuse exilée pour le moment à Montréal. Aujourd'hui, on va parler de... On va faire un petit tour de l'actualité comme on fait d'habitude. On va parler de Angela Davis, qui est une militante américaine, je pourrais dire.
Antiraciste et féministe.
Une militante. Non, elle est antiraciste plutôt.
Ouais, c'est ça.
Donc, on va parler d'elle parce qu'elle est venue à Montréal récemment. Et on va parler aussi d'un recours qui est devant les tribunaux actuellement, qui conteste les lois criminalisant la prostitution. Alors, une émission chargée, comme d'habitude, avec beaucoup de contenu. Pour les gens qui veulent lire Ainsi soit-elle, on a maintenant un site Internet après plusieurs années d'attente.
Croyez-le ou non.
On a un site Internet, alors vous pouvez le trouver au www.ainsisquatelle avec des traits d'union entre les mots. .org et vous pouvez nous écrire également à l'adresse courriel d'Inscoitel qui est ase@commercialresiste.ca.
Faut dire par contre que concernant le site internet, il est toujours en construction, alors faut être un peu intelligent.
Oui, il n'y a pas grand-chose actuellement sur le site internet, mais il y a quelque chose.
Comme il y avait des impatients et des impatientes, on a choisi de le mettre sur le web immédiatement et ce sera... Un work in progress, comme on dit.
C'est à venir. Alors, pour le moment, on s'en va en musique, on s'en va écouter Sophie Anctil, un grand classique de la Ville de Québec, avec la pièce Spray Net.
C'était le James Oliver Quartet, suivi évidemment de Sophie Anctil et des autodidactes avec la chanson Le Déficit. Voilà, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. Passez une excellente semaine. Au revoir.
Anyway. Alors, c'était Sophie Anctil avec une petite introduction particulière, mais c'était la bonne tune quand même. Alors, yes. Hélène, tu as regardé l'actualité en fin de semaine ou en fait hier ou je sais pas quand, mais
aujourd'hui,
tu nous as préparé des nouvelles frais du jour.
Oui, en fait, pour rendre à César qui appartient à Voix de Fait, en fait, je suis beaucoup le blog de Voix de Fait parce qu'il est alimenté par un de nos camarades qui suit d'autres blogs beaucoup, hein. C'est un petit peu ça la mode avec Twitter et ben surtout Twitter plus que Facebook. Là, j'entendais une entrevue justement là-dessus en fin de semaine, puis ça m'a un peu réconcilié avec la chose parce que c'est pas juste des gens qui écrivent comment qu'ils sentent ou s'ils viennent de sortir leur bain, mais c'est beaucoup, dans le fond, plein de personnes qui se mettent à faire des recherches, qui mettent en lien des... Je me suis quasiment demandé si j'allais pas y aller, étant donné que moi, je suis très novice et pas très bonne pour trouver des informations sur Internet. Donc, voilà. Voix de Fait qui, aujourd'hui, en fait, lundi 12... hier, mettait en ligne un article sur une grève des travailleurs sans papier en France. Donc, étant donné que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, je me suis dit « pourquoi pas? » Donc, voilà. Donc, c'est un millier de salariés sans papier qui se sont mis en grève. Dans le fond, les revendications, évidemment, c'est la régularisation, donc d'avoir les papiers, puis aussi d'avoir, dans le fond, une circulaire de régularisation. Donc, ça veut dire que ça soit quelque chose de structurel, de systématique, pas de la revendiquer pour juste une ou deux personnes, par exemple. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'organisations syndicales qui sont derrière ce mouvement-là. Puis, l'analyse, évidemment, qui est amenée par les gens qui sont en grève, donc depuis le 12, c'est que de dire que, dans le fond, c'est hypocrite de pas reconnaître le travail des sans-papiers, étant donné qu'ils sont présents dans l'industrie du bâtiment, les travaux publics, le nettoyage, la sécurité, la restauration. D'ailleurs, je vous invite tout le monde à ouvrir les yeux. Vous allez à l'aéroport à Montréal ou... À Montréal, je trouve que c'est un petit peu plus visible, là, vraiment. On voit tout de suite où sont les personnes qui travaillent. Donc, c'est des personnes immigrantes, des réfugiés souvent aussi. En tout cas, en France, c'est ce qui est dénoncé, que dans le fond, la majorité de ces personnes-là paient des impôts, cotisent aux caisses de solidarité, donc la retraite, la sécurité sociale, mais risquent, dans le fond, quotidiennement l'expulsion. Donc, leur argument, c'est vraiment dire, dans le fond, un, on fait un travail que personne ne veut faire, puis deux, le capitalisme, donc, dans le fond, la structure économique repose sur notre travail, sur le fait qu'on se fait exploiter. Donc, minimalement, s'il vous plaît, est-ce qu'on ne pourrait pas se faire régulariser? C'est intéressant de rappeler que lorsqu'il y a eu une dernière grève de ce type des travailleurs immigrés sans papier en France en avril 2008, il y a quand même 2500 personnes qui avaient été régularisées. Donc, c'est quand même un moyen de pression qui fonctionne, dû sûrement aussi à la solidarité, donc aux syndicats qui sont derrière. Puis je pense que c'est important, justement, ça montre l'importance du mouvement social, dans le fond, des liens qu'on peut créer entre les différentes organisations pour vraiment faire pression puis obtenir gain de cause.
Puis ça, c'est en France, mais je lisais aujourd'hui qu'il y a une augmentation de 50 % des expulsions de réfugiés au Canada dans les 10 dernières années. Alors, c'est ici aussi qu'il faut se préoccuper de cette question-là. Là.
Absolument. D'ailleurs, ça fait un lien avec ma prochaine nouvelle. Mais oui,
le punch,
non, c'est super correct. Mais oui, en effet, c'est ça. Donc, c'est intéressant, justement, de voir les luttes qui se passent ailleurs parce que, ici au Canada, moi, je suis plus au courant du mouvement qui s'organise à Montréal. Je sais qu'il y a No One's Illegal à Toronto qui est actif aussi beaucoup, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de mettre en lien, justement, ces différentes luttes-là pour pouvoir s'en inspirer, bien évidemment, et gagner notre révolution tous les jours. Donc, c'est ma première nouvelle qui a quand même été un peu longue, donc peut-être qu'on peut passer en musique, si vous voulez.
Tout à fait. Puis, on reviendra après avec un bloc de nouvelles.
Oui, par exemple, une petite nouvelle, okay. Une petite brève. Et d'ailleurs, en fait, on va écouter pas la chanson qui était prévue, mais bien une autre, parce qu'on se la garde pour introduire l'entrevue sur Angela Davis. Je tiens à dire, d'ailleurs, Angela Davis, c'est une de mes héroïnes, vraiment. J'ai hâte d'entendre votre topo là-dessus, les femmes, parce que c'est vraiment une femme que j'admire beaucoup. Donc, tout ça pour dire qu'on va écouter Annie DiFranco avec Little Plastic Castle. Vous êtes sur les ondes de CKIA FM 88,3 en compagnie des filles d'Insisquatel.
In a coffee shop in a city, which is every coffee shop in every city, on a day which is every day. I picked up a magazine, which is every magazine. I read a story, then I forgot it right away. And they say goldfish have no memory. I guess their lives are much like mine. And the little plastic castle is a surprise every time. And it's hard to say if they're happy, but they don't seem much to mind. From the shape of your shaved head, I recognized your silhouette as you walked out of the sun and sat down. And the sight of your sleepy smile eclipsed all the other people as they paused to sneer at the two girls from out of town. I said, look at you this morning. You are by far the cutest. But be careful getting coffee. I think these people wanna shoot us. Or maybe there's some kind of local competition here to see who can be the rudest. Like lipstick is a sign of my declining mind. Like what I happen to be wearing the day that someone takes a picture is my new statement for all of womankind. And I wish they could see us now in leather bras, rubber shorts, like some ridiculous new team uniform for some ridiculous new sport. Quick, someone call the girl police and file a report. Which is every coffee shop in every city, on a day which is every day.
Vous écoutez toujours CKIA FM 88,3 et on est à Squatel et on était en train de parler d'actualité avec Hélène qui nous faisait un petit tour des nouvelles qui a retenu son attention aujourd'hui.
Oui, en fait, toujours dans avec l'immigration. Donc, comme pour faire le lien avec ce que Evelyne disait avant, la chanson d'Annie DiFranco. Oui, pas seulement en France, au Canada, ça se passe. Donc, c'était pas mal à la une des journaux, je vous dirais, hier, mais aujourd'hui aussi, 60 000 demandes en attente, donc des demandes pour avoir un statut de réfugié qui traînent, en fait, qui poirotent sur les bureaux d'Ottawa. Pourquoi? Pour quelle raison? Mais en fait, parce que le ministre de l'Immigration, Jason Kenney, un conservateur, dois-je le préciser, tarde à pourvoir les 12 postes de commissaire qui pourraient, dans le fond, traiter les demandes. Puis, l'excuse qui est derrière ça, c'est qu'ils disent qu'ils veulent, le gouvernement conservateur voudrait, dans le fond, revoir en profondeur tout le système de fonctionnement au niveau de l'immigration puis au niveau des demandes, parce qu'ils disent que, dans le fond, avant, les postes de commissaire, sous les méchants libéraux, évidemment, étaient faits de manière partisane, comme si c'était pas le cas avec les conservateurs. Et loin de moi l'idée...
Il n'y a aucune nomination partisane des conservateurs, ça n'existe pas, ça.
Non, c'est ça. Puis loin de moi l'idée, aujourd'hui, de me faire l'apôtre du Parti libéral. J'espère que vous comprenez mon propos.
Mais l'idée, en fait, c'est que c'est ça. Eux autres, ils se cachent derrière ça. Donc, la question des nominations partisanes. Dans le fond, ce que Jason Kenney dit, c'est qu'il faut vraiment faire un grand ménage du système des nominations et du système, dans le fond, de réception des demandes d'asile en général. Il dit, dans le fond, qu'il y a trop de fausses demandes. Hein. Il y a des gens qui demandent que c'est faux. Hein, pour avoir des privilèges, bien évidemment. Puis qu'il faut vraiment donc faire une réforme du système. Voilà le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc, une réforme du système en entier. S'il y a des personnes en ce moment qui attendent ou qui se font, qui attendent dans des situations, dans des conditions de vie intolérables, ça, c'est pas son problème, visiblement. C'est pas grave. Puis, j'entendais une avocate en entrevue, entre autres, en entrevue à Radio-Canada aujourd'hui, qui disait dans le fond que, puis c'est pas la seule, il y a aussi, entre autres, Janet Dench du Conseil canadien pour les réfugiés qui disent que c'est juste des excuses, puis que, en fait, c'est juste une manière, dans le fond, de renvoyer. C'est une politique de fermeture des frontières qu'ils sont en train de mettre en place derrière derrière cette espèce de fausse excuse de réforme.
Ce qui serait tout à fait cohérent avec les politiques conservatrices, d'ailleurs.
Oui, exactement. Puis moi, je trouvais que c'était intéressant parce que souvent, dans l'espèce de mouvance libertaire, on va dire, bon, élection, piège à con, puis tout se vaut. Mais moi, je pense quand même que c'est intéressant de faire les nuances puis de voir que, oui, il y a une différence depuis que les conservateurs sont au pouvoir, surtout... pas juste au niveau de l'immigration, mais au niveau de l'immigration, on voit vraiment clairement un durcissement. Ça ne veut pas dire que c'était bien avec les libéraux, bien au contraire, mais on voit là, que ça va de mal en pire. Donc, en tout cas, c'est pas très positif, mais voyons-le de manière positive. Lançons des comités de lutte pour les réfugiés, c'est le temps de s'organiser. Donc, c'est mes deux petites nouvelles très courtes aujourd'hui sur le même thème. Voilà.
Excellent. Ben, et on s'en va tout de suite en musique parce qu'on va revenir après avec Véronique de Montréal, avec qui on va s'entretenir. Alors, on s'en va écouter la 25e image de la trame sonore du film La Haine.
Les enfants, les égarés sont comme des feuilles et l'écran leur offre l'encre de la violence. À la recherche d'une identité, d'une vérité, de la frontière entre le clair et l'obscur.
L'image prend désormais le contrôle de la personnalité. La fiction devient réalité, et la réalité, un cauchemar.
C'est la 25e image, et ça se de vos carnages.
C'est la 25e image.
C'est la 25e image, choisis bien ton personnage.
Tu pourrais finir en cage.
C'est la 25e image, et ça se de vos carnages.
C'est la 25e image.
C'est la 25e image, choisis bien ton personnage.
Sur la télé, rien ne m'échappait. J'étais fasciné par les truands et la vie qu'ils menaient. Ils faisaient le mal, mais étaient toujours bien sapés. Plein de femmes et tout ce qu'ils voulaient. Être méchant m'était facile. J'ai donc décidé d'avoir le premier rôle dans le scénario dont je rêvais. J'étais trop jeune pour comprendre où j'allais. Agir sans réfléchir, c'est exactement ce que je cherchais. Je sentais la puissance affluer en moi au fur et à mesure que je serrais le 45 entre mes doigts. Combien de fois l'ai-je sorti? De la plus grosse à la plus petite embrouille, je faisais parler mes douilles. Seulement je n'étais pas le seul nom à avoir pris une illusion pour une suggestion. Il fut plus rapide. Putain, c'était pas dans mon film. Il a coupé le fil, je tombe dans le vide. Il n'y a qu'un pas de la fiction à la réalité. J'en ai fait deux et je suis en train de crever. Je m'envole, mais mon corps reste au sol. Aveuglé par une image, j'ai choisi le mauvais rôle.
C'est la 25e image, elle s'inspire de vos carnages.
C'est la 25e image.
C'est la 25e image, choisis bien ton personnage.
Tu pourrais finir en cage.
C'est la 25e image, elle s'inspire de vos carnages.
C'est la 25e image.
C'est la 25e image, choisis bien ton personnage.
Tu pourrais finir en cage.
Oh yo, y'a alerte à la télévision. Oh yo, la réalité dépasse la fiction. Oh yo, tâchons d'éviter toute confusion. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Yo, mais non. Oh yo, y'a alerte à la télévision. Oh yo, la réalité dépasse la fiction. Oh yo, tâchons d'éviter toute confusion. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Yo, mais non. Écoute l'histoire du jeune qu'on appelle Andy. Situation classique, il habite Marseille ou Vitry. Tout le monde dit qu'il a quelque chose en lui. Qui vous dit je suis taré, alors me fais pas d'ennui. Tout ça est bien banal, mais sous les fêtes certains produits, il visionne ce qu'a fait ses puis s'identifie. Hey ya, hey, c'est la panique dans la Tessie. Al Pacino a sorti son fusil. Si t'as vu la fin de film, tu sais comment ça finit. La vie est bien plus forte qu'un film de Fellini. Yeah, mais non. Oh yo, y'a alerte à la télévision. Oh yo, la réalité dépasse la fiction. Oh yo, tâchons d'éviter toute confession. Tu marches dans ma rue, c'est mieux qu'un film d'action. Yeah.
manifeste.
D'où vient ce rayonnement obscur?
Quand un enfant s'assied devant sa télé, c'est un épais écran de fumée qui se développe dans sa tête loin de la vision réelle d'un humain. C'est fait du quotidien, mais est-ce la pointe du spectateur naïf s'il devient comme une victime de malin spectateur? La veille vierge infantile se tache de noir, absorbe la violence à l'instar d'un buvard. Flingue, viol et pulsion pour la création d'un vrai cauchemar en deux dimensions. Hollywood en état de choc et paniqué, braqué par des caractères qu'elle a créé. Parce que le bon de héros n'a rien à voir avec le stéréotype du quartier. Donc il est rejeté, mais le mauvais bénéficie d'un respect facile à désirer quand on vit dans la pauvreté. Angoisse ténébreuse que désormais je vois face à la peur de l'anonymat. 24 images de scène violente, la 25e sera réelle.
C'est la 25e image, et ça sert de vos carnages.
C'est la 25e image.
C'est la 25e image, choisis bien ton personnage.
Tu pourrais finir en cage.
C'est la 25e image, et ça sert de vos carnages.
C'est la 25e image.
C'est la 25e image, choisis bien ton personnage.
Tu pourrais finir en cage.
C'est la 25e image, et ça sert de vos carnages. C'est bien ton personnage.
Tu pourrais finir en cage.
Vous êtes toujours à l'écoute d'Insis Quatel sur les ondes de CKIA FM et on entendait la 25e image qui est tirée de la trame sonore du film La Haine. Maintenant, on va parler d'Angela Davis. Angela Davis qui, comme on le disait tout à l'heure, est une militante féministe et antiraciste américaine. Et en fait, juste avant d'introduire notre topo, j'avais envie de parler des nouvelles Barbie dont on a pu voir les premiers modèles dans les derniers jours dans les médias. Parce que, en fait, je pense qu'Angela Davis en aurait vraiment très long à dire sur le nouveau slogan de Mattel. En fait, la multinationale du jouet Mattel vient de lancer une nouvelle série de Barbie à la peau noire sous le thème « Black is beautiful », reprenant le slogan, évidemment, du mouvement pour les droits civiques des années 1960 aux États-Unis. Et la créatrice de ces poupées-là va même jusqu'à prétendre qu'elle voulait que les petites filles noires, et moi ça m'a fait, ça m'a vraiment ébahi. La créatrice des poupées donc va jusqu'à prétendre qu'elle voulait que les petites filles noires puissent avoir des poupées qui leur ressemblent et qui seraient une source d'inspiration pour elle.
C'est comme gros, hein, comme commentaire.
Ça m'hallucine vraiment. Il est vrai que les nouvelles Barbie, on les lève peut-être un peu plus remplies que le modèle traditionnel.
Est-ce qu'ils ont des bourrelets?
Elles n'ont pas de bourrelets. Elles ont le nez peut-être un peu plus large, elles ont les bas mètres peut-être un peu plus marqués, mais la comparaison avec toute réalité humaine s'arrête là. Il faut dire d'ailleurs que la nouvelle série de Mattel est loin de faire l'humanité, évidemment. D'une part, la plupart de ces nouvelles Barbie-là à la peau noire ont les cheveux raides. Alors, plusieurs dénoncent qu'on mette encore une fois l'insistance sur des canons de beauté occidentaux qui incitent les femmes à dépenser des fortunes pour se défriser, alors qu'on sait que les cheveux des Noirs sont tellement plus beaux que nos cheveux raides. Mais bon. Et d'autre part, il faut aussi, comme tu le disais, Hélène, s'inquiéter du fait qu'on n'a absolument pas revu les mensurations de la poupée. La poupée demeure complètement irréelle avec ses jambes beaucoup trop longues, sa taille beaucoup trop fine, ses proportions maladivement minces, sa poitrine complètement démesurée. Bref, Black is Beautiful, on n'en doute pas, mais il me semble qu'on n'avait pas besoin de Barbie pour nous en convaincre, puis encore moins pour détourner le sens du puissant slogan de libération des Noirs. Et c'est là que je voulais faire le lien avec notre prochain sujet. En fait, Angela Davis a fait un très rapide saut à Montréal au début du mois pour donner une conférence à l'Université McGill. Ça aurait été vraiment incroyable de pouvoir l'accueillir également à Québec. Certaines personnes ont tenté de faire la chose, mais c'était pas possible de faire fitter ça dans son agenda. Elle a vraiment juste fait un saut de puce au Québec. Mais on a quand même eu envie de vous parler un peu d'elle, puis de vous parler de la conférence qu'elle a donnée à Montréal. D'autant plus que Véro, qu'on a rejoint à Montréal directement, Véro qui est une membre du collectif d'Insiquatel, qui est maintenant exilée, espérons-le, temporairement à Montréal, a eu la chance de voir Angela Davis le 1er octobre dernier. Alors voyons si les merveilles de la technologie fonctionnent. Est-ce que tu es là, Véro?
Oui, allô!
Allô, Véro!
Hein?
Ça va bien, toi?
Oui.
OK. Donc, juste avant de t'entendre sur la conférence, juste peut-être dire qui est donc Angela Davis. Davis, c'est une militante, je l'ai dit, là, une militante politique américaine qui a été associée notamment au Black Panther Party. Et aujourd'hui encore, elle continue d'œuvrer pour l'égalité des, entre guillemets, des races, l'égalité des sexes, le droit des homosexuels, l'abolition du système pénitentiaire. Angela Davis est née dans les années 40. Elle a grandi dans le sud des États-Unis pendant que, évidemment, dominait encore plus, de façon encore plus dominante, la ségrégation raciale. Très jeune, par contre, elle reçoit son éducation de parents qui sont déjà militants. Au milieu des années 50, elle s'installe à New York et c'est là qu'elle aura ses premières implications militantes, notamment au sein du mouvement des droits civiques pour l'égalité des Noirs. C'est là également qu'elle va s'intéresser plus particulièrement, plus concrètement à des influences socialistes, des influences communistes aussi. Et c'est aussi à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire au début des années 60, qu'elle entre à l'université. Puis là, elle va vraiment se laisser influencer par les œuvres existentialistes, notamment de Sartre et de Camus. Elle va étudier la philosophie, en Allemagne aussi d'ailleurs, mais elle va assez rapidement rentrer aux États-Unis sans terminer sa thèse en Allemagne, sa thèse qu'elle fait sur l'existentialisme. Installée au retour d'Allemagne en Californie, elle va quand même poursuivre sa thèse, mais elle va expliquer son retour aux États-Unis du fait qu'elle souhaitait vraiment participer au mouvement de libération des Noirs qui se radicalisait alors, et elle voulait vraiment vivre l'effervescence du Black Power. Donc, rapidement, elle va être une figure dominante quand même du mouvement de libération des Noirs, mais elle va se retrouver dans une position vraiment originale au sein de ce mouvement-là. D'une part, elle refuse d'adhérer au séparatisme du Black Nationalism. En fait, elle refuse de participer à l'antagonisation de la société entre les Noirs et les Blancs. Mais d'autre part, elle s'oppose aussi à ce qu'on a appelé l'intégrationnisme qui est prôné par Martin Luther King notamment. Donc, pour Angela Davis, la lutte de libération des Noirs doit s'insérer dans un mouvement révolutionnaire plus large, tout en étant très critique envers le communisme organisé en partie ou le mouvement communiste comme tel. Elle va quand même s'afficher comme étant marxiste pour justement insérer la lutte de libération des Noirs dans un paradigme plus large. Et c'est cette position-là qui est ni séparatiste ni intégrationniste qui va faire qu'Angela Davis va rejoindre le Black Panther Party. Son implication au sein des Panthères lui vaudra d'ailleurs d'être sur la liste des femmes les plus recherchées par le FBI à un certain moment. Elle est arrêtée et mise en prison. Elle va rester en prison un an et demi avant de pouvoir subir son procès. Puis elle va quand même être acquittée des accusations qui pesaient contre elle à ce moment-là. Donc un an et demi de perdu pour absolument rien. Angela Davis, par ailleurs, est aussi une militante féministe. Alors, ça procède aussi de son envie d'insérer la lutte pour la libération des Noirs dans un spectre plus large. C'est toute une partie de son identité politique qui va se forger à travers tous les obstacles sexistes qu'elle rencontre au sein même des organisations de lutte pour la libération des Noirs dans lesquelles elle est impliquée. Et donc, pour elle, le mouvement de libération des Noirs atteindra ses objectifs seulement en luttant contre toutes les formes de domination. Donc, oui, le racisme, mais aussi le patriarcat et d'autres formes également d'oppression. À sa sortie de prison en 71, elle va d'ailleurs se mettre à l'écriture. Elle écrit autant sur l'antiracisme que sur le féminisme. On pourrait évidemment parler longtemps de ses écrits, mais bon, il suffit de taper Angela Davis sur n'importe quel moteur de recherche pour connaître la bibliographie impressionnante de ses œuvres. Je vous mentionnerai simplement que cette bibliographie-là inclut notamment Women, Race and Class, publiée en 1981, qui reste quand même un classique de la littérature féministe, là. Je vous le disais, juste pour aller plus rapidement aux propos dont on veut vraiment entendre parler, je vous disais en début de chronique, Angela Davis a prononcé une conférence à Montréal le 1er octobre dernier, et Véro du collectif Ainsi soit-elle a eu la chance d'y assister. Donc, on va y aller tout de suite en chanson, mais on revient tout de suite avec Véro et pour justement entendre parler de ce que Angela Davis a dit de façon plus contemporaine il y a à peine 2 semaines à Montréal. En attendant, on va en chanson avec...
On s'en va écouter Paul Carniello avec « Let it go on ». «
yourself such a healing hand. Now the wind bites right through me and I'm sinking in the sand. Every single word made so much sense where there's no sense at all. I drank to last call. I walked all night. Millions of hitters were singing, so I had to fight back with this song. Now you gotta be a strummer if you wanna sing along. Should I take it as a warning? Should you live on in a song? From now on it'll be never. Well, never's much too long. There's a code in each moment, announced in each chord. Shot image of a punk on our patches and pins, on our fat and our thins. A rockabilly hero with the revolution within. Now you gotta be a strummer if you wanna get in.
C'était Paul Carniello. Vous êtes toujours sur les ondes de Sequoia et ce sont les filles d'Insis Squatel qui sont là avec vous. Le collectif Insis Squatel qui s'arrête d'ailleurs devant rien, puisque via les merveilles de la technologie, on est toujours avec Véro. Allô, Véro?
Allô?
Alors, Véro, tu as eu la chance, toi, d'entendre Angela Davis il y a à peine 2 semaines à Montréal et tu avais envie de nous résumer un peu son propos.
Oui, vraiment, parce que je trouvais ça exceptionnel de pouvoir assister à la conférence d'une militante avec un passé aussi riche. Donc, je ne pouvais pas rater l'occasion et j'avais surtout envie de le partager avec vous. Donc, il faut dire que ça a été tout un événement. D'abord, cette conférence-là, ça avait lieu dans le plus grand amphithéâtre de l'Université McGill. Donc, il y avait des centaines de personnes et les organisateurs ont même dû ouvrir une deuxième salle avec projection là, vidéo pour permettre aux gens qui s'étaient déplacés d'entendre la conférence. Il y avait aussi un important dispositif de sécurité, juste pour vous faire part un peu de l'atmosphère. Bien, pas un important dispositif, mais il y avait quand même une sécurité autour d'Angela Davis. Donc, ce qui fait en sorte que la conférence a débuté avec beaucoup de retard, sous une salle vraiment bondée. L'ambiance était vraiment bonne. Puis moi, qui est habituée de voir des conférences à Québec, où quand on est quelques dizaines, on est super contente de l'événement. Là, c'était vraiment spécial. Donc, la conférence, c'était organisé par un pôle de recherche progressiste de McGill qui se consacre aux enjeux liés aux médias. Donc, ça s'appelle Media at McGill et c'était dans le cadre de leur grande conférence annuelle. Le thème, en fait, ce que je savais pas et ce que j'ai su après la conférence, le thème, c'était, dans le fond, le cas d'Oscar Grant et race, pouvoir et médias aux États-Unis. Donc, dès le départ, ce que Angela Davis a mis sur la table, c'était le lien entre la racialisation et la criminalisation, principalement aux États-Unis, donc la complicité des médias dans la violence profilée. Donc, et elle nous a tout de suite parlé du cas d'Oscar Grant qui a marqué beaucoup les États-Unis le 1er de l'an 2009. Vous en avez probablement entendu parler parce qu'ici aussi, on l'a vu dans les médias. C'est un jeune Afro-Américain de 22 ans, un gars de la ville d'Oakland qui, le soir du réveillon, revenait avec sa gang de chums de faire la fête. Et les policiers avaient fait une intervention suite à une bagarre là, avec laquelle Oscar Grant n'avait rien à voir, qui avait entraîné l'arrêt d'une rame de métro. Et ce que tout le monde a pu voir sur le net par la suite, c'est que les policiers ont arrêté quelques personnes, tous des jeunes noirs, dont Oscar Grant, l'ont rapidement mis face contre terre et rapidement, pour aucune raison, parce que personne ne s'opposait là, violemment à l'intervention des policiers, le policier a dégainé et a sorti son pistolet et a tué comme ça Oscar Grant. Donc, et ce qu'on a su par la suite, c'est qu'il pensait utiliser son taser. Mais pourtant, comme je viens de vous le dire, personne, là, il n'y a aucune raison d'utiliser un taser même qui se manifestait ce soir-là. Donc, Angela Davis voulait partir de cette situation-là et le traitement dans les médias pour nous démontrer les relations qu'il y a encore aujourd'hui entre la racialisation et la médiatisation de cette criminalisation-là des Noirs. Malheureusement, ce qui s'est avéré être son sujet principal n'a pas pu être abordé en profondeur parce qu'il y a eu des problèmes techniques et on n'a pas pu voir, dans le fond, les vidéos dont elle voulait s'inspirer pour nous parler de ce cas-là et du thème là, de la complicité des médias. Donc, rapidement, malheureusement, on n'est pas allé beaucoup plus loin dans la question de la racialisation et la criminalisation, mais on l'a abordé, Mme Davis l'a abordé plus loin sous l'angle de la racialisation de la peine de mort et de l'emprisonnement. En effet, assez rapidement aussi, Mme Davis nous a annoncé qu'elle était vraiment pour l'abolition des prisons. On sait que c'est une militante importante actuellement contre les prisons, contre la peine de mort. Et elle nous a parlé du fait que elle voulait davantage qu'on s'attaque aux causes de ce qui mène à l'emprisonnement, les problèmes d'éducation, de pauvreté, le manque de job. Et pour elle, il faut créer les conditions pour que ce qui permette à ce système-là d'exister n'existe plus. Donc, pour illustrer son propos, elle donnait l'exemple de l'abolition de l'esclavage qui s'est fait sans qu'on change vraiment les fondements des institutions et des inégalités sociales, ce qui fait en sorte qu'encore aujourd'hui, même si l'esclavage est aboli, il y a quand même des inégalités importantes dans la société américaine entre les Noirs et les Blancs. Et d'ailleurs, à propos d'emprisonnement et plus particulièrement de la racisation de l'emprisonnement, elle nous a sorti des statistiques assez effrayantes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces statistiques-là. Moi, j'avais une idée, mais jamais j'aurais pensé que c'était aussi important. Il y a un jeune noir sur 9, donc âgé entre 20 et 34 ans, qui est emprisonné aux États-Unis actuellement. Et chez les adultes, c'est un Afro-Américain sur 15 qui est en prison, donc c'est vraiment énorme. Pour vous donner une idée, c'est quand même très gros aussi, mais il y a un adulte blanc sur 106 qui est en prison. Alors, quand on compare 1 sur 106 versus 1 sur 15, c'est vraiment énorme. Et évidemment que ça a une conséquence aussi sur les Afro-Américains qui reçoivent la peine de mort. Et comme cette peine de mort-là est utilisée majoritairement dans les États du Sud, qui sont aussi qui ont une population plus importante de personnes de couleur. Donc, c'est vraiment un sujet là qui préoccupe beaucoup, la racisation de la peine de mort et aussi le racisme dans le système de justice criminelle, parce qu'évidemment, quand on voit les pourcentages, on se doute bien qu'il y a plusieurs personnes qui sont emprisonnées injustement parce que, en raison de la couleur de leur peau, elles ont été accusées d'un crime qu'elles n'ont pas commis à cause du racisme du système de justice et de la police. Donc, vraiment, là, pour elle, c'est le miroir, les prisons sont le miroir d'inégalités flagrantes. Quant au système policier, dont elle est aussi pour l'abolition, mais malheureusement, elle n'a pas étayé beaucoup sa position, elle se questionne aussi sur ce qu'on doit faire comme société quand il y a des meurtres racistes, quand il y a des interventions racistes de policiers, et elle questionnait l'assistance, est-ce qu'on doit punir l'individu, le policier, comme une mauvaise pomme, le mettre en prison et laisser le système tel quel, ou en fait, changer le système. Donc, son intervention allait un petit peu dans le sens de ne pas punir les individus et ne pas malheureusement élaborer davantage, parce que ça peut nous questionner, et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, c'était concernant la criminalisation des personnes noires. Donc, elle n'a pas élaboré malheureusement là, beaucoup sur les solutions, mais en fait, il y a une grande solution qui est changer le système dont elle nous a entretenus. Et toujours sur cette grande question-là et la question spécifique des prisons, elle a abordé, malheureusement trop rapidement parce que c'est un sujet dont on entend peu parler, c'est la question des enjeux de genre en prison. Elle a commencé à militer pas mal sur les enjeux de genre et au sort qui est réservé aux personnes qui se reconnaissent ni comme femmes ni comme hommes qui sont emprisonnées, sur la situation dans laquelle ça met ces personnes-là et aussi sur leur vécu dans les prisons. Donc, c'est un autre grand sujet très intéressant. Et par la suite, elle est revenue à la question des médias, qui était quand même un enjeu central, pour aborder cette fois-ci le rôle que les médias jouent dans la privatisation du racisme. Elle trouve que plutôt que politiser le racisme, on a tendance actuellement aux États-Unis à le privatiser. Et elle s'est inspirée de l'épisode dont on a entendu parler ici aussi, du policier de Cambridge qui avait arrêté à tort un universitaire noir que Barack Obama avait ensuite qualifié de stupide. Et là, suite à l'escalade dans les médias, il avait clos l'épisode en invitant les deux gars à venir boire une bière. on se rappelle des titres qu'on a entendus, Obama met fin au racisme avec une bière, mais elle déplorait vraiment que cet incident-là éclôt le débat, que les médias aient aussitôt porté leur attention sur la bière, le type de bière qu'ils ont bu, etc. Surtout une bière présente trois gars, donc quelque chose de privé. Et que les médias aient embarqué aussi là-dedans. Donc, elle dénonce cette privatisation-là, puis insiste sur l'importance de s'intéresser à la structure du racisme et que les médias n'enterrent pas cette structure-là. Donc, c'est un autre grand thème auquel elle nous a initié.
Et là, on voit super bien les liens, justement, qu'elle fait entre l'analyse féministe puis l'analyse antiraciste.
Tout à fait. Ouais. Et puis c'est vraiment présent, je dirais, en filigrane dans l'ensemble de ses interventions. Donc c'est intéressant parce qu'elle va pas, on voit qu'elle n'a pas une analyse simpliste de cette réalité-là. Puis c'est assez riche. D'ailleurs, malheureusement, souvent elle parle aussi du coq à l'âne. C'est sûr que c'est tous des thèmes intéressants, la racialisation et la criminalisation, la privatisation du racisme, la racialisation de la peine de mort. Donc on voit elle, il y a des liens entre tous ces éléments-là, mais malheureusement, souvent, elle était tellement inspirée qu'elle passait vraiment d'un élément à l'autre sans vraiment les approfondir. C'est peut-être l'élément qui est un petit peu plus malheureux, même si, en fait, je me plains pas, j'étais tellement contente d'assister à la conférence, mais quand même, elle a malheureusement pas approfondi sa pensée dans l'ensemble de ces grands thèmes-là qui sont passionnants.
Mais c'est quand même intéressant comme teaser à réflexion, là. C'est quand même...
Faut dire aussi qu'elle là, elle était en backup sur une conférence qui sa conférence d'origine ne pouvait pas avoir lieu, là, ce que je comprends. C'est ça, elle brodait, là.
Mais elle ne nous a pas dit ma conférence, mais moi, c'est un peu ce que ça m'a laissé penser parce que on voyait qu'elle cherchait, elle avait pas, j'ai l'impression aussi qu'elle avait peut-être un PowerPoint, qu'elle avait d'autres éléments visuels. Des fois, elle avait l'air à chercher et tout ça. Fait que ça m'a donné un petit peu cette impression-là. Sinon, elle aurait eu l'air pas préparée, mais moi, je pense plutôt que il y a eu des petits problèmes techniques qui ont peut-être un peu déstabilisé la présentation qu'elle devait faire. Donc, c'est sûr que je veux pas être trop dure, mais en sortant, j'étais restée sur ma faim parce que tous ces teasers-là me donnaient le goût vraiment qu'on aille plus loin. Mais en fait, c'est peut-être justement des éléments qui peuvent nous amener à apporter plus loin notre réflexion, puis à fouiller ces différents éléments-là. Donc, dans ce sens-là, c'est un bon déclencheur. Puis je pense que dans l'assistance, les gens étaient super contents. On sentait, moi j'avais des frissons là, quand elle est arrivée, quand elle répondait aux questions. Donc, c'est sûr que c'était intéressant, mais malheureusement, on n'a pas... Et certains éléments, il faut le dire quand même... On aurait pu aller plus loin et mieux expliquer, par exemple, la question des comportements individuels des policiers qui doivent être punis versus changer le système. C'est intéressant, mais ça ne règle pas le problème à court terme. Donc, par exemple, à mon avis, si on arrête de punir individuellement les policiers qui font du profilage racial, là, on lance un signal qu'on ne prend pas ça au sérieux. Donc, je trouvais qu'à cet égard-là, on n'a pas regardé vraiment... les enjeux à court terme. Mais bon, c'est un petit élément critique globalement. C'était vraiment une excellente conférence, super. On voit, c'est une conférencière aguerrie et elle est revenue aussi un petit peu au long de sa conférence sur son expérience personnelle. Évidemment, elle a parlé beaucoup de ces enjeux-là sur lesquels elle travaille présentement, mais elle est quand même revenue sur son expérience de militante, et c'est justement là-dessus qu'elle a conclu en disant que comment elle souhaite qu'on construise des communautés de résistance, des solidarités transnationales. Elle nous a rappelé qu'elle croyait vraiment profondément que si plein de monde de partout sur la planète se mettait ensemble, ça peut marcher, et elle donnait son exemple, son cas en exemple, en évoquant le rôle capital qu'avait joué l'activisme social et les mobilisations internationales pour sa libération, comme dans celui d'autres prisonniers politiques. Donc, c'est vraiment sur l'importance de construire ces communautés-là de résistance qu'elle a conclu. Et elle a rapidement évoqué le rôle qu'ont les médias alternatifs comme CKIA dans la construction de ces solidarités-là. Okay. Donc, c'est vraiment...
C'est sur cette note positive-là, donc, nous aussi, on va conclure. Merci, Véro, d'avoir agi comme nos yeux et nos oreilles à cette conférence-là. Ça devait effectivement être super inspirant. Et puis, on se reparle pour la suite de la réflexion sur les pistes qu'Angela Davis a pu lancer. Vous allez, d'ailleurs, pour les auditeurs et éditrices, vous pouvez trouver des traces de cette conférence-là sur le net, là, en tapant Angela Davis, McGill ou différents trucs comme ça. Merci, Véro.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Puis en attendant, on revient tout de suite, nous, mais en attendant, on y va en musique avec « Les temps sont durs » de Wachaklan.
De l'insouciance, c'est triste d'accord, mais nos sociétés ont fini de nous faire marrer. On esthétise, cache misère, on invente des plaisirs dans un monde de loisirs. Nous voilà téléguisés. On n'est pas prêt à partager, mais on veut plus de temps libre. Pas question de lâcher quelques heures de travail. Les temps sont durs, c'est l'heure des décisions. On parle de récession, toujours pas de révolution. Certains se sont des carcassés.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de CKIA FM 88,3 et après avoir parlé de Angela Davis, on va passer à l'Ontario. En fait, je voulais vous parler, moi, d'une petite nouvelle que j'ai vue la semaine passée. En fait, c'est trois militantes et travailleuses du sexe qui demandent à la Cour supérieure de l'Ontario d'invalider certains articles du Code criminel qui touchent en fait à la prostitution, qui criminalisent certains aspects de la prostitution. Le procès se déroule actuellement à Toronto. Il s'est déroulé la semaine passée et continue cette semaine. En fait, ce que l'on contestait, ce que les militantes et travailleuses du sexe comptaient, c'est la légalité des infractions qui criminalisent la communication pour des fins de prostitution dans un lieu public. Un autre article qui criminalise le fait de tenir ou de fréquenter une maison de débauche. Et celle qui criminalise le fait d'inciter une personne à la prostitution ou à vivre des produits de la prostitution d'une autre personne. Donc, c'est les articles qui sont contestés. Faut savoir que la prostitution en soi, le fait de vendre un acte sexuel, de vendre son corps pour de l'argent, ça en soi, c'est pas illégal au Canada comme dans bien d'autres pays, là. La prostitution comme telle n'est pas illégale, c'est les activités qui entourent la prostitution qui sont criminalisées au Canada. Alors, on comptait ces articles-là. Les militantes et travailleuses du sexe sont, en fait, elles sont trois. Ils sont représentés, entre autres, ils ont deux avocats, dont un avocat est Alan Young, qui est un professeur de droit à l'Université de Osgoode Hall, qui est une des références en droit au Canada, là. Puis la position qui est avancée, c'est une position assez intéressante parce que, bon, faut savoir que ces dispositions-là, c'est pas la première fois qu'on les conteste devant de différentes façons. En fait, si on remonte à quelques années, en 1985, il y a eu le comité Fraser sur la pornographie et la prostitution qui avait recommandé un renforcement de la criminalisation de la prostitution de rue, mais avait recommandé qu'on permette aux prostituées d'exercer leur métier à l'intérieur, en fait, dans une maison, sous certaines conditions. Alors, du comité Fraser en 85 a découlé, en fait, le Parlement canadien a fait la première partie, c'est-à-dire a renforcé ses lois par rapport à la prostitution de rue, mais avait refusé d'abolir les dispositions qui concernaient les maisons de débauche pour permettre que les prostituées fassent leur travail en dedans, si on veut. Alors, la situation est restée comme telle et entre-temps, en fait, en 1990, la Cour suprême du Canada avait rendu un premier jugement sur une contestation également là, des anciens articles du Code criminel qui reprend en fait les articles qui sont contestés actuellement, donc soit la communication pour fin de prostitution puis le fait de tenir une maison de débauche. Alors, en 90, la Cour suprême avait maintenu la validité de ces dispositions-là en disant que, en fait, ce qui était allégué à ce moment-là, c'est que ça violait la liberté d'expression et le droit à la liberté et à la sécurité. Ce que la Cour a conclu, grosso modo, c'est que oui, bon, il y a une atteinte à la liberté d'expression, mais c'est justifié par le fait que dans une société comme ça, on a l'objectif de supprimer les nuisances qui sont liées à la sollicitation et qui sont liées aux activités de la prostitution, donc le fait qu'il y ait un encombrement, du bruit, bon, c'est ces choses-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 1990 et pourquoi on revient encore avec ça? On pourrait penser que, dans le fond, le débat est clos puis qu'on n'a pas grand-chose d'autre à argumenter. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, maintenant, l'angle sur lequel cette contestation-là est faite, c'est vraiment l'angle de la sécurité. En fait, on part de l'idée qu'il n'y a rien dans la loi qui interdit la prostitution actuellement. C'est une transaction, c'est un commerce qui est permis de vendre son corps ou de vendre du sexe. Et par contre, tous les articles du code criminel font en sorte que ce commerce-là qui est licite est en fait impraticable. Et les contraintes sont tellement sévères que ça force les prostituées à l'exercer dans des conditions qui les mettent en danger, qui mettent en danger leur sécurité physique et personnelle.
Les données reliées au crime reliées à la prostitution sont d'ailleurs hallucinantes, là.
Bien, en fait, c'est ça. Non seulement c'est ça qui est allégué, mais c'est ça qu'on tente de mettre en preuve dans la preuve qui est faite. En fait, on tente de prouver par des témoignages, par des affidavits, par différents moyens, mais aussi par des statistiques. Maintenant, depuis 1990, il y a eu des études sur les conditions dans lesquelles les prostituées exercent leur métier, soit dans la rue ou à l'intérieur. Et maintenant, on peut démontrer qu'effectivement, les prostituées qui l'exercent dans la rue ont beaucoup plus de chances de se faire battre, de se faire violer, de se faire voler, de se faire même tuer. Donc, c'est un peu la preuve qu'on essaie de faire. On verra qu'est-ce qui en découle, mais c'est un angle assez intéressant. Alors, c'est à suivre, et probablement, là, c'est à la Cour supérieure de l'Ontario, probablement que c'est quelque chose qui va monter dans les autres sphères des tribunaux, et on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai pas le temps d'en parler, mais il y a des réactions aussi, tant dans le milieu de droite que dans le milieu féministe, qui sont pas très favorables à cette démarche-là. Donc, on pourra peut-être en reparler dans une autre occasion.
Oui, on va suivre ça.
On va continuer dans le fond, avec les temps sont durs, ça vous va pour la musique?
OK.
Étant donné qu'on l'a un petit peu écouté, puis c'est tellement bon cette chanson-là, donc on continue avec les temps sont durs.
On n'est pas là pour rigoler, passer l'âge de l'insouciance, c'est triste d'accord, mais nos sociétés ont fini de nous faire marrer, on esthétise. Cache-misère, on invente des plaisirs dans un monde de loisirs. Nous voilà téléguidés. On n'est pas prêt à partager, mais on veut plus de temps libre. Pas question de lâcher quelques heures de travail. Les temps sont durs, c'est l'heure des décisions. On parle de récession, toujours pas de révolution. Des carcassés se sont battus pour faire avancer. Générations sacrifiées, tout est à recommencer, à reprendre, à retravailler. On pardonne le passé à un homme politique, on accorde l'immunité. Mais alors, jeune novice, pourquoi ça? S'attacher à cette notion d'intégrité. Ton maître, ton mentor, ton exemple est pourri. Alors pourquoi t'en profiterais pas? Il faudrait être un âne et capable de le rester, pour voir les autres se gaver, sans vouloir aussi jouer au jeu des privilégiés. Privilège d'être né blanc en Occident, dans une famille aisée avec des rêves d'enfants.
Alors, c'était Wachaklan et les temps sont durs qui concluaient l'émission d'Insiskwatel cette semaine. On n'aura pas nécessairement le temps pour beaucoup de plugs, mais juste vous dire que que un peu plus tôt on parlait d'Angela Davis et des Black Panthers, sachez que mardi prochain, donc le 20 octobre à 19h30 au bar L'Agité 251 rue Dorchester à Québec, il va y avoir une conférence sur les Black Panthers, il va y avoir aussi une projection de film concernant les Black Panthers. Alors c'est en même temps que notre émission, mais on vous donne la permission à condition que vous écoutiez la rediffusion, donc rediffusion de Dancy Squatel tous les jeudis à 13h. En attendant, ben on vous souhaite une bonne semaine. Et on vous laisse sur les ondes de CKIA.
Restez à l'écoute pour l'émission Cultivons notre hip-hop qui suit juste après.
Bonne semaine!